Merci d'être avec nous. On est en osmose, j'espère que vous allez bien. Et on va retrouver la chronique BD avec Vivien.
Il est temps de retrouver Vivien et sa chronique bande dessinée.
Merci Monsieur Gainsbourg, elle est excellente cette chanson.
Entre autres.
Ça vous représente bien Monsieur Vivien?
Oui, pourquoi pas, oui.
Vous aimez la BD?
Oui, entre autres, oui.
Vous aimez Marvel aussi, j'ai l'impression.
Oui.
Vous aimez les comics?
J'aime les comics, oui.
Est-ce qu'on va pas parler de comics, justement?
Aujourd'hui, oui, on va parler comics, ouais.
Wow, quel hasard.
Oui, c'est fou, dingue, hein.
Ouais.
On va beaucoup parler de comics aujourd'hui, d'ailleurs, en plus.
Quel genre de comics?
On va parler de G.I. Joe Transformers 1939. Donc, peut-être que vous, la majorité d'entre vous, connaissent les Transformers, via les films de Michael Bay, une véritable ode aux explosions, aux couchers de soleil et aux effets spéciaux grandiloquents, si je puis dire. Et peut-être connaissez-vous aussi les G.I. Joe via les films qui ont tenté timidement de faire une percée au cinéma. Le troisième devrait sortir ou est sorti.
Le troisième G.I. Joe?
Oui, c'est Snake Eyes. Ouais. Snake Eyes.
Les deux premiers ont marché.
Bah, visiblement assez pour en faire un troisième. Mais avant tout ça, avant de revenir sur le devant de la scène par le biais du cinéma, les G.I. Joe, ce sont des jouets donc de Hasbro et des dessins animés dans les années 80-90. Et ça a eu un succès absolument considérable durant les années 80-90. Tous les enfants des années 80-90 ont vu et ont aimé les G.I. Joe et les Transformers. Et du coup, ça a permis de se forger une petite place dans le panthéon de la pop culture. Bien sûr, ces deux séries ont eu leur comics au fur et à mesure des années. C'est pas nouveau. Mais je vais quand même vous parler d'un comics Transformers G.I. Joe, un crossover qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale.
On est en 1939, c'est la première partie. Je dis ça parce qu'on voit la pochette sur la vidéo. Alors c'est une période charnière de notre histoire, avec deux montres. Avec deux monstres des années 80. Ça raconte quoi? Parce que c'est bizarre de foutre les G.I. Joe et les Transformers en 1939 quand même.
Ah ben c'est un coup de com, hein. Ça c'est juste pour plaire aux nostalgiques des deux licences. On est dans un passé uchronique, il faut savoir. On parle pas de nazis ici. Voilà. C'est Cobra, l'ennemi juré des G.I. Joe, qui est parvenu à embraser l'Europe et la mettre à feu et à sang et sous sa botte, parce qu'un jour il va découvrir les Decepticons, donc avec le chef des Decepticons, Megatron, qui va l'aider à envahir l'Europe. Et pour contrer cette nouvelle force qui est arrivée en Europe et qui a tout envahi, les États-Unis, bien sûr, décident de riposter avec une nouvelle force d'unité spéciale qui va s'appeler les G.I. Joe.
Super. C'est un scénario très maniqué, hein. Le bien, le mal. Ouais.
Oui, alors là, je vais prendre un terme que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Il y a les gentils, il y a les méchants. Là, vraiment.
Voilà, le bien, le mal.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment les gentils d'un côté, les méchants de l'autre.
C'est souvent ça, un Transformer.
Oui, on est d'accord, mais là, c'est vraiment qu'on a vu et qu'on connaît depuis qu'on est enfant. Il y a pas de distinction, il y a pas de nuance entre l'un et l'autre. Les méchants sont vraiment méchants, les gentils sont vraiment gentils. On est dans une ode à l'Amérique et au patriotisme aussi, hein. Il y a des drapeaux partout au début de tome et tout ça. Pour moi, ce tome-là, c'était une véritable promesse et surtout quelque chose d'alléchant pour l'enfant des années 90 que je suis, de retrouver deux licences que j'ai aimées. J'ai moins aimé les G.I. Joe quand j'étais enfant, mais j'ai adoré et j'adore toujours les Transformers. Donc pour moi, de retrouver les Transformers dans une période historique que j'aime beaucoup également, c'était une véritable belle promesse. On se retrouve embarqué directement dans l'action. Il n'y a pas d'introduction. La première planche de l'album, c'est de l'action. L'armée de Cobra qui envahit une île près des îles Féroé et qui va trouver Megatron, et c'est la bagarre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort dans le tome. C'est directement de la bagarre. On est là pour faire plaisir au petit garçon qui est en nous. Donc du coup, on est directement dans l'action. C'est très soutenu comme rythme narratif. Néanmoins, pour les amateurs des deux licences, on va retrouver donc. On se trouve en terrain conquis. On va retrouver les Decepticons, on va retrouver les Autobots. qui ont fait rêver des générations de gamins. Mais l'action est très assurée. Comme on est essentiellement dans l'action, eh bien en fait on va passer d'une scène d'action à l'autre comme si on zappait à la télévision d'un film d'action à un autre film d'action.
D'accord.
Il y a des références que j'ai trouvées au dessin animé des années 80. Donc je pense que pas beaucoup d'entre vous ont vu, à part les plus vieux comme moi, pour le réveil des Autobots. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances des deux univers, sinon on est totalement largué. Il faut le savoir. Hein,
Il faut aimer les deux, quoi.
Il faut aimer les deux, ou au moins du moins connaître un tout petit peu de loin les deux univers. Mmh. Parce que si on ne sait pas qui est Cobra, pourquoi ce mec-là il est là, qui est Snake Eyes, on ne sait pas du tout. Enfin, si on n'a pas un minimum de connaissances, on va vite se sentir largué.
D'accord. C'est dommage parce qu'il n'y a pas trop de rapport. Hein. Moi, j'aime beaucoup Transformers, mais alors G.I. Joe, je suis complètement hermétique.
Voilà. Après, il faut quand même avoir un peu, savoir qu'au moins, Cobra, c'est le grand méchant de l'univers G.I. Joe. Voilà. Il est quand même connu dans l'univers geek et pop culture, hein, parce que bon, il est connu depuis le temps. Mais il faut avoir un minimum de connaissances. Après, il faut pas non plus s'attendre à un scénario très poussé. Hein. C'est, comme je dis, c'est très manichéen. Le bien, le mal, les gentils, les méchants. Et puis les gentils, ils sont là pour. C'est très américanisé. Les Américains décident de leur propre chef de créer une force armée surentraînée et suréquipée pour aller sauver l'Europe et en tout cas déloger Cobra qui a envahi l'Europe. Voilà, on n'est pas sur un. Il y a pas de plan de bataille. Il y a rien du tout. Hein. Les mecs qui sont là pour. On prend nos armes, nos bits, nos couteaux et on y va. Hein. On n'est pas là pour rigoler pendant 500 ans. Il y a juste l'affrontement avec Snake Eyes qui est assez intéressant parce que son frère est dans une armée, lui est dans l'autre, et du coup de voir qu'il y a deux membres d'une même famille dans deux camps opposés, c'est plutôt intéressant parce que du coup il y a vraiment une vraie ambiguïté entre les deux. Pourquoi l'un choisit l'un et l'un n'a pas choisi l'autre? Et les Autobots arrivent en fin de tome. Donc du coup, les gentils robots, si je peux m'exprimer ainsi, arrivent en fin de tome pour un petit peu du coup contrebalancer un petit peu ce pouvoir absolu qu'a Cobra. Du coup, les États-Unis auront aussi leur force militaire avec des robots, mais pour le second tome.
D'accord. Bon, on a vu quelques images sur la vidéo. C'est un peu sombre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, au niveau des dessins?
Alors, ça colle parfaitement à l'ambiance, on va dire, guerre, brumeuse, le cataclysme que peut vivre un pays durant une guerre. Hein. On peut très bien s'imaginer que durant une guerre, malheureusement, on est envahi de poussière, de brume. C'est très étouffé comme atmosphère. Mais malheureusement, le fait que ça soit extrêmement sombre, on perd en lisibilité durant tout le tome. Il m'est arrivé durant la lecture de revenir sur certaines planches. J'ai pas pu trouver plus de planches sur internet pour que vous puissiez voir lors de la vidéo, mais en fait c'est extrêmement sombre. On perd beaucoup de détails dans la lisibilité. Des fois il y a des personnes qui sont cachées parce que c'est la guerre et que du coup ils doivent se cacher pour échapper aux ennemis qui les entourent. Et des fois, on a du mal à les voir ou à les percevoir. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On doit revenir. Les scènes d'action sont bien réalisées, mais des fois un peu fouillies parce que on a l'impression qu'on a mis la molette sombre à fond lorsqu'on a mis les images à imprimer. Après, c'est vrai qu'on se sent parachuté directement dans cette ambiance de guerre. Hein. Comme j'ai dit, dès les premières planches, on est dans la bagarre, dans la bataille et tout ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est immergé dans l'action. Mais c'est vrai que on perd en lisibilité. Des fois, on est un peu perdu dans cette lecture avec un dessin qui est tout à fait correct. Hein. Il est pas horrible, hein, faut dire ce qui est. Mais cette mise en couleur qui est très sombre et ce choix et ce parti pris de faire cette espèce de brouillard de guerre permanent, du coup, on est un peu perdu. On sait plus où est-ce qu'on est dans l'île, en plus, parce qu'il vadrouille dans l'île. Enfin, voilà. Et du coup, on est un peu perdu. Mmh. Il y a quelques cases quelques planches qui sont plus éclairées avec des effets de ciel qui sont plutôt jolis et tout ça. Du coup, qui nous permet de respirer un peu en tant que lecteur. Mais on perd un peu en compréhension, malheureusement. Après, quand même, les scènes d'action sont bien découpées, même si des fois on perd en lisibilité, mais elles sont bien découpées. Les robots, quoi qu'on en dise, quand on est fan de Transformers comme moi, eh bien, on trouve quand même du plaisir à retrouver Megatron, à retrouver les Autobots et tout ça, et à retrouver plus par la suite.
Comment il s'appelle? Bumblebee.
Il y a Bumblebee qui est chez les Transformers, hein, et après Optimus Prime qui est le chef.
Optimus.
Et qui est pour,
ah bah oui.
Voilà, qui est pour moi le personnage le plus intéressant. Qu'on voit très très peu, très brièvement dans le tome, mais je pense qu'il prendra beaucoup d'importance dans le second tome. On trouve quand même du plaisir à retrouver les personnages qu'on aime. Les G.I. Joe, je les mets de côté parce que c'est des êtres humains et à une époque ou une autre, ça change rien. Vraiment, il n'y a pas de personnages charismatiques à mon sens. Les Autobots et les Decepticons surplombent le lot.
D'accord. Ceci dit, tu parles de sombre et tout ça, mais dans les films des Transformers, c'est souvent...
Alors,
les batailles, tout ça, c'est très sombre, encombré.
C'est très fouillis. En fait, dans les films Transformers, Michael Bay aimant par-dessus tout les explosions. Si on voit le film au cinéma, au premier rang, comme je l'ai fait pour le 2, on finit avec une crise d'épilepsie. Sincèrement, voilà.
C'est vrai.
Mais ça reste quand même lisible parce que y a quand même de beaucoup de couleurs. Les robots ont beaucoup de couleurs. On est dans des environnements, je crois que c'est sur les deux premiers, dans les déserts, machin et tout ça. Donc du coup, même s'il y a du sable, de la fumée et tout ça, il y a quand même de la lumière. Là, on manque de lumière.
Bon, c'est quand même une chronique en demi-teinte. T'as pas l'air enthousiasme.
Alors, je suis un peu déçu. Ah. L'enfant des années 80-90 qui est en moi aimait cette idée de retrouver les G.I. Joe et les Transformers ensemble. Qui plus est, en plus, au début, aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. Et pour le coup, je suis un peu entre deux. Voilà, je ne dirais pas que c'est un mauvais comique. Je ne dirais pas non plus que c'est un comique absolument à posséder. En tout cas, pour ce premier tome, peut-être que le second sauvera le diptyque et que du coup, je reviendrai en disant « mais je me suis trompé, le premier était une mise en bouche, peut-être un peu longuette. » Mais c'est quand même une belle découverte et c'est une belle promesse. Pour les gens qui aiment les Transformers, qui aiment les G.I. Joe, qui ont envie de le découvrir, je ne peux que le conseiller, voilà. Mais si vous êtes un peu... Attendez le second tome. Si vous hésitez encore un petit peu, je vous conseillerais d'attendre le second tome. Et surtout, c'est aussi le fait aujourd'hui de parler pour la première fois ici de Westron Comics, qui sort beaucoup beaucoup de choses dans nos contrées et surtout qui nous permet de découvrir ces univers-là parce que sans eux, il n'y aurait pas ce tome-là. Donc il faut quand même remercier et saluer leur investissement dans nos frontières parce que s'ils ne choisissaient pas de prendre le pari de sortir un Transformers 1939, on n'aurait pas eu l'occasion de le lire, on ne pourrait le lire que en VO. Donc c'est à saluer et sachant que j'espère qu'ils referont, c'est prévu normalement dans les cartons, ils reprennent les Power Rangers aussi l'année prochaine.
Bon, on a une grosse totale là. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est séparé, les G.I. Joe chez les G.I. Joe, d'abord je les aime pas, et les Transformers chez les Transformers parce que je les aime bien.
Mais c'est bon. Bien qu'il y ait des crossovers, il y a bien des crossovers entre Batman et les Tortues Ninja, il y a bien des crossovers entre Batman et Fortnite d'ailleurs, il y a bien les Tortues Ninja et les Power Rangers.
Et puis d'ailleurs c'est sympa ces crossovers, ça pourrait peut-être me permettre d'ouvrir mes écoutilles vers les G.I. Joe.
Aussi, voilà. Et je conseille pour le très bon crossover qui est sorti récemment, c'est Batman and the Mask.
Yes. Merci Vivien.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
En osmose.